Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le 20 novembre est Journée internationale des droits de l'enfant. Le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2020, avec l'entrée en confinement des pays et la restriction des mouvements mis en place pour contenir la propagation du virus, la Covid-19 a marqué quasiment tous les aspects de la vie. La fermeture des portes et le début de l'isolement se sont accompagnés d'une hausse des cas signalés de violences à l'égard des femmes et des filles, en particulier de violences domestiques. La pandémie de violences à l'égard des femmes n'est pas nouvelle. Avant même l'épidémie, 243 millions de femmes et de filles avaient été maltraitées par leurs compagnons au cours de l'année précédente à travers le monde. La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant un large éventail de violences, violences d'un partenaire intime, violences sexuelles et harcèlement, abus sexuels sur enfants, mariage précoce. Liste malheureusement non exhaustive. Les situations sont extrêmement diverses à travers le monde, mais la parole des femmes avec le mouvement MeToo s'est libérée. Cette vague qui touche aujourd'hui de multiples univers est sans précédent. En France, c'est dans le monde littéraire et éditorial ainsi que religieux que s'est produit le tremblement de terre le plus spectaculaire. La publication de deux ouvrages, Familia Grande de Camille Kouchner et Le consentement de Vanessa Springora, où celle-ci met en cause Olivier Duhamel d'une part et l'écrivain Gabriel Masneff d'autre part, a inauguré une ère nouvelle dans laquelle la parole de ceux qui ont subi des violences sexuelles étant enfants est désormais prise au sérieux. Du côté de l'Église, début octobre était publié le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, commandé par les évêques de France en novembre 2018. S'en est suivi la décision d'indemniser les victimes. La conférence des évêques de France a décidé de vendre des biens immobiliers de l'Église pour financer une indemnisation individualisée des victimes d'abus sexuels. Nos invités aujourd'hui, Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, auteur de « Violences sexuelles, les 40 questions, réponses incontournables » dont la deuxième édition actualisée et augmentée vient de paraître aux éditions d'Uno. Bonjour.
Bonjour.
Geneviève Garrigos, conseillère de Paris, ancienne présidente d'Amnesty France. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Verdrager, chercheur en sociologie, auteur de « L'enfant interdit, de la défense de la pédophilie à la lutte contre la pédocriminalité » paru chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
En France, les violences conjugales ont enregistré une hausse de 10% en 2020 et concerné près de 160 000 personnes selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Environ 87% des victimes sont des femmes. En 2020, 102 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ancien conjoint. Quelques 5 400 femmes ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle par leur conjoint. Il y a 4 ans, démarrait le mouvement MeToo. Quelles ont été les avancées pour les femmes ces 4 dernières années? Et est-ce que la pandémie a ralenti les avancées? Muriel Salmona.
Alors, depuis MeToo, on assiste à des vagues successives, avec vraiment une amplification. Et puis, ça touche au niveau international de plus en plus de pays, ça touche de plus en plus de situations, jusqu'à cette année avec MeToo inceste, MeToo gay, MeToo théâtre, MeToo politique. Enfin, je veux dire, de ce côté-là, ça n'arrête pas. Et la pandémie n'a pas arrêté ces vagues-là, parce que justement, elles se produisent principalement aussi au niveau des médias et des réseaux sociaux. Donc ça, là-dessus, ça fonctionne. Après, effectivement, en ce qui concerne les violences, on voit une augmentation des violences domestiques, une augmentation des violences aussi, ça a été dénoncé de plus en plus, et ça, on en est vraiment soulagé de tout ce qui est pédocriminalité sur le net, et puis tout ce qui est pornographie. Là, il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place par rapport à toute cette esclavage, en quelque sorte, sexuel, exploitation sexuelle. Alors après, au niveau des avancées, c'est très particulier parce que à la fois, on a obtenu des lois, de nouvelles lois, avec un seuil d'âge du non-consentement qu'on cherchait à obtenir depuis tellement longtemps.
Dans la loi en France, effectivement, du 21 avril
dernier. Voilà, avec une amélioration aussi de la définition du viol, puisque les rapports bucogénitaux maintenant font partie de la définition du viol, ce qu'on demandait aussi. Donc, c'est des avancées. La mise en place de la CIVIS, la commission indépendante inceste et violences sexuelles, sexuelle envers les enfants qu'on a obtenue après le mouvement MeToo Inceste. Enfin, elle devait déjà exister en décembre 2020, mais avec Elisabeth Guigou à sa présidence et sa proximité avec Olivier Duhamel a fait qu'elle a démissionné. Donc tout ça, ça bouge, la CIASE, on vient d'en parler. Mais on a quand même l'impression que toujours tout accouche en fait d'une souris en quelque sorte par rapport à ce qu'on devrait attendre. Et puis surtout, on a l'impression qu'il y a vraiment pas de, en termes d'impunité, les choses ne bougent mais absolument pas, voire même s'aggravent. Et que ça, c'est une vraie problématique. Donc il y a des effets d'annonce et puis il y a une réalité qui est avec un non-respect des obligations des États de protéger les victimes et de poursuivre les auteurs des violences.
Alors, bien sûr, la question de l'impunité, on en parlera en évoquant les questions de justice, décalage entre les effets d'annonce et la réalité. Geneviève Garrigos.
Oui, on se retrouve, et je rejoins tout à fait Muriel. On a vu qu'il y avait eu des avancées au niveau de la loi, on a beaucoup parlé de ces différents sujets, mais reste un problème majeur, de mon point de vue, c'est que, de toute façon, au titre de la présomption d'innocence pour les personnes qui sont accusées de ces crimes, eh bien, on est toujours dans une présomption de mensonge pour les victimes et non pas dans une présomption de vérité. Et c'est ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que là, moi, j'ai signé il y a quelques jours la tribune qui a été publiée sur les femmes en politique, qui demande justement que les partis n'investissent plus des gens qui pour lesquels il y a eu des dénonciations, etc., de violences sexuelles. Parce qu'on voit très bien, et c'est toute la difficulté, c'est que les violences sexuelles et sexistes sont systémiques. Elles sont systémiques dans tous les milieux, surtout dans les milieux où il y a du pouvoir, les milieux qui sont traditionnellement masculins et les femmes se retrouvent finalement en minorité. Et derrière, eh bien, tout se bloque à chaque fois. On avance, on en parle. Et puis, parce qu'on en a parlé, parce qu'on crée une commission, c'est comme si ça retombait. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on aille plus loin. Il faut qu'il y ait un véritable engagement. Et il faut que, finalement, on porte sur les personnes qui dénoncent un regard qui est différent. Aujourd'hui, on a l'impression que le système, dès que c'est une personnalité connue, d'ailleurs, il se referme pour le protéger. Bon, je ne vais pas citer des cas récents et très connus, mais il faut qu'enfin on écoute et on croit la parole des victimes, et on n'en est pas encore là.
Croire à la parole des victimes, on y reviendra bien évidemment. Alors, violence faite aux femmes et pédocriminalité, comme je le disais en introduction, Pierre Vindragé, les abus sexuels sur les enfants sont des violences faites aux femmes, et c'est important à souligner, c'est la parole des victimes, souvent des femmes, qui a rendu l'impunité pédocriminelle qui avait cours dans certains milieux proprement insupportable. Vous analysez dans votre ouvrage la tentative de valorisation de la pédophilie qui a eu lieu au cours des années 70 et 1980, donc 1970-1980. Cette tentative de valorisation, elle fait aujourd'hui froid dans le dos. Comment une telle transformation a-t-elle été possible, Pierre Vernager?
Alors, il y a beaucoup de facteurs, évidemment, qui sont intervenus dans ce processus dynamique. Peut-être qu'il faut quand même dire deux mots de ce qui a pu se dire quand même dans ces années-là, dans les années 70-80, donc où une phase très importante de libération sexuelle qui a été extrêmement positive pour l'ensemble de la société. Et un certain nombre d'acteurs de cette époque-là considéraient que la valorisation, la légitimation des relations sexuelles entre les adultes et les enfants était quelque chose qui était envisageable et qui prenait sa place dans un contexte élargi où il y avait évidemment la défense de l'avortement, l'émancipation des homosexuels par l'alignement des majorités sexuelles, ce qui est arrivé en 1982. L'émancipation féminine, la libération du corps. Et on pensait, certaines personnes en tout cas pensaient, que la légitimation des relations sexuelles entre les enfants et les adultes intervenait dans un contexte et était un cas particulier d'un ensemble plus vaste qui était ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de gens qui se sont embarqués là-dedans, qui ont signé des pétitions, qui ont défendu cette cause. En 1982, quand la majorité sexuelle homosexuelle a été alignée sur la majorité sexuelle hétérosexuelle, ça a été une avancée très considérable de l'égalité des droits entre les sexualités. Et certains pensaient à ce moment-là que c'était un premier pas vers une libération plus importante C'est-à-dire que soit on allait s'acheminer vers une diminution de l'âge pour tout le monde de la majorité sexuelle, soit carrément on allait vers une situation où il n'y aurait plus d'idée de majorité sexuelle et que ce qui comptait, c'était le consentement des partenaires, entre guillemets, consentement. Quel que soit l'âge, en fait, ce n'était pas une question d'âge, c'était simplement la liberté qui était la condition nécessaire et suffisante de la licéité de notre relation. Là, je cite la pétition de juillet 77, hein, la lettre adressée au Code pénal qui avait été rédigée par Mazeneuve, Foucault, Scherer et d'autres personnes. Donc, c'est ça qui s'est mis en place dans ces années-là. Alors, ce n'était pas juste un truc de gauche, hein, parce que souvent, la presse de droite aujourd'hui ou d'extrême droite dit, voilà, mai 68, c'est terrible, on a défendu la pédocriminalité. Ce qu'on appelle aujourd'hui la pédocriminalité, c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. Mais on retrouve aussi cet argumentaire-là, bien que formulé d'une manière complètement différente à droite, notamment dans la Nouvelle Droite. Et ce qui pouvait faire la jonction entre la gauche radicale et la Nouvelle Droite, c'était évidemment Guy Hockenheim, qui avait des affinités et qui a écrit des choses dans Libération sur la Nouvelle Droite qui ont été lues comme étant totalement complaisantes. Et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui encore, la Nouvelle Droite revendique l'héritage de Guy Hockenheim. Donc il y a eu une espèce de transversalité politique de la défense de cette cause. Alors, les arguments à droite, ils étaient complètement différents. À gauche, on visait plutôt l'égalité des protagonistes, c'est-à-dire l'enfant est une personne, l'adulte a toujours gardé son âme d'enfant, donc l'argumentaire visait à rapprocher les partenaires de la relation pédophile. À droite, c'était pas ça. On avait tendance plutôt à valoriser le différentiel, parce qu'à droite ou à l'extrême droite, dans la Nouvelle Droite, on valorise les situations de contraste, de différentiel de pouvoir, et donc ce qui était partie prenante là, qui était mobilisé comme argument, c'était bien plutôt la Grèce ancienne, par exemple, avec un différentiel absolument nécessaire pour rendre possible la relation sexuelle entre adultes et enfants. Donc il y avait deux manières complètement différentes d'aborder le problème, mais au total, on retombait sur une même défense. Donc ça, je précise ça parce que très souvent, il y a un procès qui est fait de mai 68 avec la question pédophile et qui oublie, qui néglige ou qui lie partiellement mon travail en oubliant qu'il y a tout un chapitre sur la valorisation de droite de pédophilie.
Et effectivement, les acteurs de l'époque ont souvent mis l'accent sur les autres cultures, ou en tout cas les autres cultures qui ont souvent été un argument de justification de la pédophilie. Et aujourd'hui, on se retrouve, Muriel Salmona, la France un peu pointée du doigt, où on ne comprend pas qu'à l'étranger, eh bien, des personnalités comme Mazeneuve aient pu sévir pendant autant d'années sans être inquiétées. Et certains journalistes américain affirme même que le cas français est pire que celui de Jeffrey Epstein aux États-Unis.
Oui, alors c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup tardé, en tout cas, à prendre la cause des enfants, à reconnaître le fait que les enfants devaient être protégés et à vraiment mettre en place justement ce fameux seuil d'âge du non-consentement, enfin vraiment avec une absence de vision de la réalité de ce qu'est un consentement éclairé, libre, en dehors de tout contexte d'emprise et de rapport de force et de rapport de domination. Mais je pense que bon, la situation elle est internationale par ailleurs. Et on a enfin rattrapé quand même un certain retard, même si cette loi du 21 avril 2021 n'est pas du tout parfaite, puisqu'il y a vraiment des exceptions. Mmh. Et ça, on n'en voulait pas. Mmh. Et parce que maintenant, c'est une sorte de... c'est une usine à gaz. Cette loi, le problème des lois, c'est qu'elles soient appliquées. Mmh. Or, le plus souvent, elles ne sont pas appliquées. Et alors là, ça va permettre aussi une non-application.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette loi et quels sont les points de critique, finalement, Muriel Salmona, les principaux...
Alors, les points positifs, c'est qu'on a obtenu 15 ans comme seuil d'âge du non-consentement, alors que ce qui était mis en avant, c'était 13 ans pour l'ensemble des enfants, et en situation d'inceste, 18 ans. Mais il y a des exceptions. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 5 ans de différence d'âge pour que cette loi fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas
entre l'agresseur et la victime.
Voilà. Et avec les adultes. Donc, qu'il n'y ait pas à qualifier la violence, la contrainte, la menace et la surprise. C'est-à-dire que toute forme d'acte sexuel, à ce moment-là, est considérée comme un délit ou comme un crime, suivant s'il y a pénétration ou rapport bucco-génitaux. Au niveau de l'inceste, c'est uniquement les adultes ayant autorité de fait ou de droit sur l'enfant qui sont concernés. Donc ça, c'est des exceptions qui réduisent de façon très importante la loi. En plus, on voulait aussi, par rapport à tout ce qui était mis en situation prostitutionnelle, que tous les mineurs soient protégés, ce qui n'est pas le cas. C'est seulement à 15 ans qu'il y a une vraie protection. Donc c'est pas parfait, mais en tout cas, ça c'est quand même une révolution en France de prendre en compte ces rapports de domination sur l'enfant. Et ce qui reste encore à penser, et qui est vraiment là, disons que c'est, il y a une prise de conscience qui n'est pas encore faite sur le fait que toutes les violences sexuelles s'exercent dans ce cadre d'un rapport de force, d'un rapport de domination sur des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de discrimination, et que les personnes en situation les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, ne sont pas du tout protégées comme il le faudrait. Donc là, il y a encore vraiment quelque chose à faire pour cette réalité-là.
Ces personnes en situation de handicap qui sont encore plus victimes que les autres. Geneviève Carivougos, et je vous passe la parole ensuite, oui. Pierre Verdinger.
Il y a différents points qui me semblent devoir souligner. Le premier, c'est que la France n'a toujours pas adopté la définition du viol telle qu'elle s'est engagée à le faire à travers la Convention d'Istanbul. C'est-à-dire que le viol, c'est l'absence de consentement. Et on reste, nous, ancrés sur le fait que, eh bien, finalement, il y a toujours un doute sur le fait que la victime n'aurait pas dit non. C'est un point d'achoppement très, très important. Et c'est d'un point d'autant plus important au niveau des enfants. Et quand Muriel parlait de ce différentiel de 5 ans, c'est majeur. C'est majeur parce que quand on a 15 ans, ça veut dire qu'avec quelqu'un qui a 18-19 ans, c'est un majeur, eh bien, on met sur le même plan. Je fais partie de celles qui ont témoigné dans les premières sur MeToo inceste. Et ce que je voudrais bien rappeler, c'est qu'on discute des motivations de l'adulte, etc. Ce qu'on oublie, et c'est le drame des violences sexuelles, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les motivations de l'adulte, mais ce qu'on oublie, c'est l'impact que cela va avoir sur les enfants, sur les jeunes, d'accord, les adolescents, les préadolescents. Comment toute notre vie, on va porter ce fardeau. Et je pense que c'est très important de le dire, parce qu'à chaque fois, on est dans des conceptions, la justice, l'impunité, etc. Mais quel est notre fardeau ? Moi, j'ai 67 ans aujourd'hui, j'ai toujours des séquelles, et je sais que certaines, je ne m'en débarrasserai jamais. C'est-à-dire que nous sommes on porte ça, on a une peine qui est, elle, permanente. C'est une peine à perpétuité. Et ça, on ne le dit pas assez. Et pour que vos auditeurs comprennent aussi l'enjeu qu'il y a derrière tous ces MeToo, c'est que être victime, ce n'est pas juste, c'est pas comme quand on se fait voler un téléphone ou cambrioler. Non, c'est une brisure, une cassure de l'être qu'on va porter toute sa vie.
Merci Geneviève Garrigos pour ce témoignage.
Pierre, oui, j'embraye sur ce que vous venez de dire qui me paraît important, parce que Muriel Salmona a parlé tout à l'heure de seuil de non-consentement, et en fait, c'est pas tout à fait ça qu'il y a dans le code pénal, puisqu'il n'y a pas du tout de référence au consentement ou à l'absence de consentement. Donc c'est une confusion qui est très souvent faite, y compris parmi les spécialistes, y compris par le ministre Taquet, qui parle d'un seuil de non-consentement, alors qu'il n'y a pas ça du tout dans le code pénal. Il n'y a pas de référence à l'absence de consentement.
Hein ?
Oui, c'est ça, mais
c'est
implicite et explicite, c'est pas la même chose. Mais en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'il n'y aura pas interrogation du consentement ou non de la victime. Là, il y a automatiquement un crime dès lors qu'il y a pénétration ou contact bucco-génital. Ce qui est quand même une révolution, parce que les relations sexuelles entre les adultes et les mineurs de 15 ans étaient déjà interdites. Mais maintenant, on a quelque chose qui est donc un crime automatique, qui correspond au fond à ce que le juge Rosenzweig voulait, c'est-à-dire qu'on écarte la question du consentement et on met en place l'automaticité du crime. La deuxième chose que je voulais ajouter par rapport aux transformations légales qui ont eu lieu avec la loi d'avril...
Alors je vous propose qu'on suspende ce deuxième volet.
À tout de suite.
On vous retrouve, Pierre Verdinger, avec Geneviève Garrigos et Muriel Salmona, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Le 20 novembre est Journée internationale des droits de l'enfant. Le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Regard sur les violences sexuelles avec nos invités. Muriel Salmonin, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur de Violences sexuelles, les 40 questions-réponses incontournables, dont la deuxième édition actualisée et augmentée vient de paraître aux éditions d'UNO. Geneviève Garrigos, conseillère de Paris, ancienne présidente d'Amnesty France. Et Pierre Verdrager, chercheur en sociologie et auteur de L'enfant interdit, de la défense de la pédophilie à la lutte contre la pédocriminalité aux éditions Armand Collin. Pierre Verdrager, je vous ai interrompu à la fin de la première partie de l'émission. Vous évoquiez les transformations des outils légaux avec ce deuxième volet dont vous vouliez nous parler.
Voilà, donc le deuxième volet que je voulais évoquer, c'était ce qui était dans le code pénal, la transformation de la définition du viol avec l'introduction de la référence aux actes bucogénitaux, ce qui est une petite révolution, à vrai dire, parce que ça rompt avec l'exigence de pénétration pour la caractérisation du viol. Donc on se retrouve avec une définition du viol où une pénétration n'est pas requise pour faire viol et où, bien sûr, les conditions d'âge peuvent faire viol. C'est vraiment des innovations importantes. Je ne suis pas en train de défendre la nouvelle définition du viol dans le code pénal, ce n'est pas du tout ça, mais je note que cette définition a changé de façon très importante.
Muriel Salmonin, commentaire peut-être sur ce que vient de dire Pierre Verdrager, et vous l'évoquez dans la première partie de l'émission, la question de la justice, de l'impunité. Vous réclamez l'imprescriptibilité de ces crimes sexuels en raison des caractéristiques propres de ce que vous nommez la mémoire traumatique.
C'est pas juste la mémoire, enfin la mémoire traumatique, particulièrement l'amnésie traumatique qui fait que les victimes, du fait de leurs conséquences psychotraumatiques, des très graves conséquences qu'elles subissent, ne peuvent pas porter plainte avant souvent de très nombreuses années. Et quand elles le font, les faits sont prescrits. Mais il y a aussi d'autres éléments hein, pour l'imprescriptibilité, c'est l'ampleur, la gravité des faits, puisque au niveau, que ce soit au niveau de la Cour européenne, ce sont des actes dégradants, inhumains, cruels, ils sont définis comme ça, et au niveau international, c'est de plus en plus considéré comme de la torture, et du fait que c'est vraiment là, on est avec des personnes extrêmement vulnérables, et toute une société qui n'a pas rempli ses obligations, et qui a empêché toutes ces victimes d'être protégées, d'être prises en charge et qu'on leur rende justice. Alors justement par rapport à la justice, il y a moins de 10% des victimes de viols, donc de crimes, qui portent plainte. Pour les enfants, c'est plutôt autour de 4%. Et il y a 74% de ces seulement moins de 10% de plaintes qui sont classées sans suite. Et dans ce qui reste, donc les 26%, il y en a la moitié qui sont déqualifiées. Par exemple, quand il s'agit de viol, c'est déqualifié en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle, voire en violence. Pour les viols conjugaux, par exemple, ils sont souvent déqualifiés en violence, tout simplement. Et au final, donc, il y a 10% seulement des plaintes qui vont aboutir à un jugement, pas une condamnation, à un jugement. Et depuis 10 ans, il y a 40% de condamnations pour viol en moins, alors que le nombre de viols dans les enquêtes de victimisation a augmenté. Donc on est face à une impunité réelle, et que là-dessus, il n'y a rien pour changer la donne. Enfin, je veux dire, derrière, justement, toujours cet argument qui est celui de la défense, de la présomption d'innocence, etc., on ne se préoccupe pas de l'injustice qui est faite aux victimes et surtout du risque de réitération sur d'autres victimes et d'augmentation du nombre exponentiel, en fait, du nombre des viols. Donc là-dessus, on veut obtenir quelque chose. Et par rapport à ce qui était de l'ordre des conséquences psychotraumatiques, on est dans une situation où les conséquences psychotraumatiques, au lieu d'être des preuves médico-légales des violences, sont retournées contre les victimes pour mettre en cause leur crédibilité, pour en fait leur porter préjudice, par exemple par rapport à l'amnésie traumatique, qui font qu'elles ne vont pas pouvoir obtenir justice parce que, disons que c'est autour de 40 à 50, voire 60% des enfants victimes de violences, suivant si c'est un inceste, si les faits sont répétés, qui vont présenter cette amnésie traumatique. Et ça, on n'a pas obtenu non plus, et ça je ne le comprends pas, parce qu'il y a une loi qui fait que s'il y a un obstacle insurmontable, on peut avoir une levée de prescription. L'amnésie traumatique devrait être considérée comme un obstacle insurmontable. épouvantable pour la victime pour porter plainte, puisque c'est pas de son fait, elle ne peut pas le faire, et que c'est lié à la stratégie de l'agresseur si la victime est en amnésie traumatique. C'est vraiment la violence qui a été exercée contre elle qui crée au niveau du cerveau des atteintes profondes qui entraînent cette dissociation et cette amnésie traumatique. Et ça, on n'a pas obtenu, alors que ça a été voté par le Sénat, ça a été bloqué. Et ça, c'est très préjudiciable pour les victimes. Ce qu'on a obtenu, c'est ce qu'on appelle une prescription glissante. C'est-à-dire que le fait que si un auteur commet des viols à répétition, en série, pour une victime pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits quand il y a un deuxième viol qui est commis sur une autre victime, elle va bénéficier de la prescription de la deuxième victime. Mais encore faut-il que les faits ne soient pas prescrits pour cette première victime. C'est toujours assez complexe. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait justement, il y a une vraie reconnaissance de la gravité de ces faits-là qui est reconnue internationalement, une vraie reconnaissance de la gravité des conséquences à très long terme sur les victimes, et une prise en charge complète, que ce soit au niveau de la justice, au niveau des soins, au niveau de l'accompagnement et des réparations.
Alors précisément, demande de reconnaissance de la gravité des faits, est-ce que ce qui se passe en France et dans le monde au niveau et du côté de l'Église n'est pas en train d'apporter une sorte de, je ne vais pas dire une révolution, mais en tout cas, il y a un vrai, me semble-t-il, Pierre Verdragé me regarde avec les grands yeux, mais d'abord, il y a une reconnaissance, il y a eu la publication en France du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, enfin, tout ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il me semble que les victimes de membres du clergé obtiennent peut-être plus de reconnaissance. Alors non, j'ai l'impression que Pierre Verdragé, en tout cas, je vous sens...
Non, écoutez, l'Église catholique est une organisation qui, depuis des décennies, est mise en cause les viols sur enfants, les agressions sexuelles sur enfants. Ce n'est pas du tout une affaire qui est nouvelle, c'est une affaire qui est internationale, qui est documentée depuis au moins 40 ans, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Moi, j'ai refusé d'être auditionné par la CIAZ, parce que je trouvais quand même extraordinaire que ce soit la même structure criminogène qui, en même temps, organise les crimes et les délits, et en même temps auditionne les sociologues pour savoir quelle était l'ampleur des crimes qu'elle avait elle-même préconisés. Non, moi, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. C'est le préalable que je voulais donner. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'on va voir, parce que vous êtes bien optimiste. La CIAZ, son mérite, ça a été de mettre au jour le fait qu'il y avait eu 330 000 victimes, donc un nombre absolument énorme. Et qu'est-ce qu'on a vu en face ? Je ne mets pas en doute la bonne volonté de Jean-Marc Sauvé, qui a dirigé la CIA. Je pense que c'est un homme de bonne foi, mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer. Ça veut dire, est-ce que l'Église va se réformer elle-même ? Ça, ce n'est pas un problème qui concerne les laïcs. Moi, j'ai une approche séculière de la question, mais pour une approche laïque, ce qui compte, c'est est-ce que les victimes vont pouvoir être indemnisées ? Est-ce qu'il va pouvoir y avoir une réparation ? Et donc, moi, vous savez, les sociologues, c'est des gens assez matérialistes, très terre-à-terre. Et je constate qu'il n'y a pas l'énonciation d'un audit patrimonial de l'Église qui aurait permis de dire ce qui allait pouvoir être vendu. L'Église a parlé de la vente de son patrimoine immobilier, ce qui est évidemment absolument nécessaire, puisque la CIAZ a recommandé de ne pas profiter des deniers du culte. Donc, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas cet audit. Il faut que l'Église soit transparente de ce point de vue. Donc l'audit me paraît indispensable, et après on pourra évidemment savoir si l'engagement de l'Église dans la réparation, c'est pas juste de la com, c'est ça que je veux dire. Et donc sans cet audit, sans cet état des lieux capitalistique, on n'aura pas d'idée. Et moi j'avais suggéré récemment dans un tweet que l'Église fasse un geste symbolique fort, initial évidemment, c'est pas ça qui constituerait la réparation totale, mais un geste symbolique fort que constituerait la vente de la maison de la Conférence des évêques de France, qui est un très luxueux bâtiment, avenue de Breteuil, avec un parc, quelque chose de vraiment très beau, qui doit coûter des dizaines de millions d'euros. Et j'avais suggéré que la Conférence des évêques de France, la maison de l'Église de France, s'installe ailleurs, en banlieue, par exemple, comme l'a fait le Conseil général d'Île-de-France. J'ai suggéré ça et je me suis dit, ce serait un beau geste symbolique initial adressé aux victimes.
En tout cas, on est peut-être dans ce qu'évoquait précédemment Muriel Salmona face à ce décalage entre effet d'annonce et réalité, mais c'est peut-être trop tôt pour le savoir véritablement. Geneviève Garrigos.
Oui, ce qui me semble important, c'est que, comme vous le disiez, aujourd'hui, on parle de vérité. Maintenant, il y a vraiment la prise en charge des victimes et derrière la réparation qui va leur être faite. Mais il est vrai que c'était connu, comme la question de l'inceste est connue en France, comme les violences en politique sont connues, comme les violences sexuelles dans les médias sont connues. La question, c'est qu'une fois qu'on en a parlé, une fois qu'on va s'occuper de certaines victimes, c'est comment on s'attaque à l'aspect systémique et comment on va faire pour que ça ne se reproduise pas. Et ce qui est très ennuyeux dans toutes ces affaires, c'est qu'on retrouve, eh bien oui, on dénonce des crimes, oui, on va mettre en place des commissions, on va reconnaître certaines victimes, etc. Et après, comment on s'attaque globalement dans la société, parce qu'on le voit, c'est un des autres aspects du... Il n'y a pas eu le hashtag MeToo, mais ça aurait pu être le cas. On voit bien que la société est rongée par les violences sexuelles et sexistes. On voit bien que c'est une question de pouvoir, on le sait, hein, c'est pas une question sexuelle. Même si ce sont des violences sexuelles, c'est une question de pouvoir. Comment on s'attaque à cette domination, parce que c'est vraiment une question de domination d'une certaine partie de la population sur les autres, et on la remet en cause. Parce que c'est ça qui nous ronge aujourd'hui, et on voit que ce sont les mêmes qui vont faire les lois, c'est ces mêmes qui vont l'appliquer, c'est les mêmes... Eh bien, là aussi, il faudrait remettre tout cela à plat. Et quand est-ce qu'on va vraiment réfléchir à lutter d'une façon systémique à des violences qui, elles, le sont ?
Muriel Salmona.
Oui, alors on a été quand même aussi très déçus dans le cadre des conclusions du rapport de la CIAZ de voir qu'il ne préconisait absolument pas d'imprescriptibilité, ni de levée de prescription pour l'amnésie traumatique, alors que bien même que la plupart des témoignages, c'était des faits prescrits. Donc du coup, il ne pouvait pas y avoir de recours au droit pénal. Je veux dire, ce qui est quand même une garantie d'indépendance, c'est que ce soit la justice séculière qui agisse. Et il y a un autre élément aussi qui est extrêmement choquant, c'est le secret de la confession. Là, les évêques s'y opposent.
Mais ils ont été un peu remis en place par le ministre français de l'Intérieur.
Enfin, difficilement, et ça a mis du temps, hein, parce que nous, on l'a demandé. vraiment, on a crié pour que ça soit le cas. Et ça, la problématique des secrets professionnels, c'est un peu aussi la même chose au niveau des médecins qui sont en première ligne pour pouvoir dénoncer les violences sexuelles. C'est un vrai problème. Et puis, donc là aussi, toute la problématique par rapport à la hiérarchie, la hiérarchisation à outrance, la domination, l'exclusion des femmes aussi dans le cadre de la hiérarchie au niveau de l'Église, et une véritable volonté de reconnaître les droits de chacun et qui vraiment pose problème. Enfin, et puis c'est ce qu'on voulait aussi. Moi c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'avais demandé. Je demandais aussi que le président de la République reconnaisse la faillite totale de l'État dans le fait de remplir ses obligations par rapport à cette lutte. Je veux dire, on peut porter plainte contre l'État au niveau international, en termes de justice internationale. Et ça, on ne l'a pas obtenu non plus. C'est très...
Alors, j'ai une question qui déplace très légèrement le débat, mais pas complètement. On parlait de pouvoir, de domination. Je voudrais vous poser la question de l'adoption. Alors, on parle beaucoup de la PMA, la procréation médicalement assistée, et ceux qui la réfutent avancent l'argument du nombre d'enfants en attente d'adoption. J'ai cette question un peu délicate, celle de la pédocriminalité dans les filières d'adoption. Qui peut me répondre ? Geneviève Garrigos.
Oui, alors... au niveau de... Effectivement, les filières d'adoption, les choses ont beaucoup évolué. Il y a eu de très gros scandales, pas simplement dans le cadre de la pédocriminalité, mais aussi dans le fait que, finalement, on pouvait aller à l'autre bout du monde, adopter un enfant, pratiquement aller le chercher et le ramener. Aujourd'hui, heureusement, on fait évoluer le droit et les situations. Bon, moi, j'étais nommée en tant que conseillère de Paris, j'étais nommée au Conseil des familles. Le Conseil des familles est chargé au niveau départemental, notamment de valider, en tout cas, de valider les adoptions. Alors, on ne valide pas les adoptions à l'étranger. Par contre, il y a... On voit comment ça se passe au niveau des agréments qui sont donnés pour l'adoption par l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, en France, un couple ou une personne seule, hein, puisqu'en France, on peut adopter qu'on soit en couple hétérosexuel ou de même sexe, ou qu'on soit ce qu'on appelle une famille monoparentale, on peut faire une demande d'adoption, mais pour ça, il faut obtenir un agrément. L'agrément, c'est un processus assez long, hein, qui prend parfois 2-3 ans, avec des contrôles réguliers, etc. Et il faut exactement le même agrément pour une adoption en France et une adoption à l'étranger. Et donc, il y a ensuite tout le processus avec, en fonction des pays, il y a eu la Convention de la Haye où il y a certains pays qui ont mis des règles très strictes, et d'ailleurs, il faut respecter à la fois le droit français et le droit du pays en question. Il y a les ambassades de France qui sont directement concernées, les consulats, puisque l'enfant va venir en France, etc. Donc, on voit qu'il y a énormément de contrôles de garde-fous qui ont été mis en place. Après, c'est comme toujours, dès qu'il y a des questions de criminalité, eh bien, il peut y avoir des réseaux. Mais vraiment, je pense, de ce que moi je vois, les choses ont beaucoup évolué dans le sens de la protection de l'enfance et de lui permettre aussi on avait vu, il y avait y compris des histoires de fratries séparées, etc. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont regardées aujourd'hui.
Muriel Savona.
Je voulais rebondir aussi sur la problématique des enfants placés aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est aussi le fait que ces enfants-là, tous ces enfants qui peuvent être en situation de beaucoup plus grande vulnérabilité, on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir identifier ce qu'ils vivent, pour les protéger, pour dépister les violences qu'ils pourraient subir, et que parfois même malgré de nombreuses alertes, rien n'est fait. De signalement, rien n'est fait. Donc, c'est vraiment protéger les plus vulnérables. Et je rappelle là aussi que les enfants, par exemple, en situation de handicap, qui sont en institution, peuvent subir jusqu'à 5 fois plus de violences sexuelles. Quand on dit 5 fois plus de violences sexuelles, ça veut dire que c'est 100% des enfants dans ces cas-là qui subissent des violences sexuelles. C'est un enfant sur 5 dans l'ensemble qui subit. Donc, c'est vraiment la protection des personnes qui sont en situation de vulnérabilité et la mise en cause de tous les processus de domination, d'autorité, de rapport de force et d'abus de pouvoir.
Pierre Vardinger.
Oui, je voudrais donner quand même un son de cloche un peu positif par rapport à tous ces mouvements et en faisant référence à l'expérience que moi j'ai vécue en tant que sociologue sur ces questions-là, sur la question de la pédocriminalité et l'évolution que moi j'ai ressentie au fil du temps. Moi j'ai publié en 2013 « L'enfant interdit », qui était donc la première édition d'un livre que j'ai réédité donc cette année. Et je peux vous dire que quand mon livre est sorti en 2013, où j'évoquais toutes ces questions, où j'évoquais Matzneff et cette affaire, je peux vous dire que quand Vanessa Springora a publié son livre, Le consentement, il s'est passé quelque chose d'énorme. Je me suis retrouvé dans une situation de sollicitation absolument nouvelle. Et j'ai bien senti dans mon propre vécu, moi qui ne suis pas victime, je ne suis pas acteur vraiment direct des violences sexuelles, j'ai ressenti dans mon propre vécu à quel point cette prise de parole avait été révolutionnaire et avait changé le regard. Je ne dis pas que ça change tout, je ne dis pas que tout va bien, je ne dis pas que le système judiciaire a assez d'argent pour fonctionner, je ne dis pas ça. Je dis simplement que quelque chose s'est produit dans la société qui fait que désormais, on prend au sérieux ces affaires, on passe du temps dans les médias dessus, on fait attention à ce qui se passe. Et alors évidemment, il y a beaucoup d'affaires qui sont venues après. Il y a eu le livre de Kouchner et tout un édifice culturel s'est d'une certaine manière effondré. Alors que, pour revenir à Matzneff, qui était un personnage évidemment clé, qui a publié pendant 40 ans des livres, et notamment des journaux, où il décrivait les viols qu'il faisait subir à des enfants, dans une espèce d'indifférence générale, dans une espèce de valorisation de ça. Et tout ça s'est effondré. Et donc, je crois qu'il faut quand même avoir ça en tête. Il y a des changements culturels importants qui se passent. On est en train de les vivre en direct, donc c'est pas toujours facile de les analyser. Mais je crois qu'il faut aussi y être sensible.
Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Pierre Vardinger. Je rappelle que vous êtes chercheur en sociologie, auteur donc de L'enfant interdit, de la défense de la pédophilie à la lutte contre la pédocriminalité aux éditions Armand Collin. Merci aussi Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie et auteur de Violences sexuelles, les 40 questions questions-réponses incontournables, dont la deuxième édition actualisée et augmentée vient de paraître aux éditions Dunod. Et Geneviève Garrigos, conseillère de Paris et ancienne présidente d'Amnesty France. Je rappelle aussi l'ouvrage de Denis Mukwege, dont on n'a pas parlé, paru aux éditions Gallimard, au prix Nobel de la paix, L'homme qui répare les femmes. Son dernier ouvrage, donc La force des femmes, un ouvrage passionnant. Merci à chacun. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À demain.